Eh bien, ça paraît pas. Ça paraît pas, je le sais. Mais Pâques s'en vient. Lorsque je suis rentré dans le stationnement ce matin, j'ai Luc Anger qui aidait les gens à rentrer dans le stationnement. Il m'a dit « Joyeux Noël! » Eh mon Dieu, on était pris par surprise ce matin avec cette neige-là. Moi, pour sauver de l'argent, vous savez, c'est un juif, t'as pas le choix. Tu peux pas payer plus cher qu'il faut. Dernièrement, j'ai fait des réparations pour ma voiture. C'est un temps d'entretien. Alors, il enlevait les pneus pour vérifier les freins et tout ça. J'ai dit, tiens, je vais en profiter. C'était juste borderline, c'était correct, c'était légal. C'était la première journée ou deux jours après. Je vais changer mes pneus. Alors, je mets mes pneus d'été. Aïe, ce matin, des pneus d'été. Wow, sur Grébert. Des pneus d'été sur Grébert avec les nids de poules et avec la neige et tout ça, hein, mon ami. J'ai rendu ma femme nerveuse. Eh bien, oui, effectivement, Pâques arrive à grands pas et puis nous voulons nous arrêter sur ces passages où nous voyons Jésus s'approcher de Jérusalem pour célébrer justement la Pâque et évidemment, ultimement, s'offrir en sacrifice à la croix pour prendre nos péchés. Et nous voulons regarder ce matin cet épisode dans la vie de Jésus alors qu'il est en chemin pour se rendre à Jérusalem. Vous savez que certains passages sont inspirants simplement par leur contenu. D'autres deviennent encore plus inspirants lorsqu'on les regarde dans le contexte. Et le passage que nous allons voir ce matin est important de regarder justement dans le flot de l'histoire du ministère et de la vie de Jésus-Christ. Ça devient d'autant plus important. C'est un passage comme ça. Et là, nous nous trouvons juste à quelques jours de Pâques, c'est avant Pâques, et la ville de Jérusalem se prépare à recevoir des milliers de personnes. D'ailleurs, on estime, Flavius Joseph, qui était un historien qui existait à l'époque, estime qu'il y avait à peu près 2,7 millions de personnes à Jérusalem pour cette semaine sainte. Parce que voyez-vous, il y avait quelques fêtes juives comme ça qui nécessitaient que tu quittes vraiment ta demeure pour venir t'installer à Jérusalem pendant quelques jours pour célébrer une fête religieuse qu'on appelait les Saintes Convocations. Et Pâques est l'une de ces fêtes-là que les Juifs appellent la Pessah. C'est la fête juive, la fête de Pâques, qui remonte à l'Ancien Testament. Et vous pouvez imaginer l'engouement qu'on va retrouver alors que Jésus est en chemin vers Jérusalem. Et la rumeur circule que cet homme est un faiseur de miracles, qui est Jésus-Christ. Et déjà, il commence, sa réputation n'est plus à faire à ce point-ci dans son ministère. Il vient à peine de ressusciter Lazare, et la rumeur circule très vite que cet homme, Jésus, vient de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Donc, vous pouvez imaginer, alors, que l'on retrouve Jésus dans cette période de son ministère, alors qu'il se dirige à Jérusalem. Les gens se massent en foule pour l'accueillir et le voir arriver, ce faiseur de miracles, celui qui vient de ressusciter un mort. Donc, on va se cumuler, on va se placer en masse pour l'accueillir alors qu'il fait son entrée à Jérusalem. D'ailleurs, il y a le verset qui décrit un peu cette scène, c'est Jean 12. Et nous lisons, le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant. Alors, une foule qui crie, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Quelle réaction, Israël semble, Jérusalem et les Juifs qui sont là à coups de milliers de personnes, semblent reconnaître le roi d'Israël. Après tout, les branches de palmier étaient rendues un symbole national à ce point-ci à Jérusalem. Voyez-vous, deux siècles plus tôt, un homme du nom de Simon de Maccabée avait délivré Jérusalem des assauts des forces syriennes et conséquemment pour célébrer et l'acclamer, ce que l'on faisait, on a acclamé Simon comme un héros avec des chants, de la musique et on a agité des branches de palmiers. Agiter des branches de palmiers devant Jésus exprimait donc un espoir nationaliste. où Israël serait peut-être enfin libéré de cette domination romaine qui pèse en ce moment sur Jérusalem et sur tout Israël. On célèbre donc l'arrivée d'un libérateur messianique, d'un sauveur, et c'était donc l'acclamé roi et sauveur national. D'ailleurs, ce cri « Hosanna », un terme d'acclamation et de louange pour le salut d'Israël, « Hosanna » qui signifie littéralement « sauve de grâce », faisait allusion évidemment à une délivrance nationale. On voulait retrouver Jérusalem et Israël dans la gloire du passé, dans le temps du roi David. Alors, il est question de salut national. On acclame ce roi qui vient sauver le pays des ennemis. L'acclamation de la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, provient en fait du psaume 118 que les gens connaissaient bien. C'est le Hallel qu'on récitait lors de certaines fêtes juives. On le connaissait très bien depuis qu'on est jeune, enfant. On apprend ce psaume 118. Alors, tout le monde connaissait très bien cette portion des Écritures de l'Ancien Testament et le cri, l'acclame à l'endroit de Jésus qui arrive, ce faiseur de miracles. Cette phrase va même se retrouver dans un livre qu'on appelle la Midrash, qui est un commentaire, c'est des commentaires bibliques, dans le fond, si l'on veut, de l'Ancien Testament, qui ont été écrits par des Juifs. Et on le cite, mais cette fois-ci, à l'endroit du Messie. Donc, définitivement, dans la perception des gens, ils sont en train de reconnaître Jésus. Ici, en tout cas, par cette acclamation, ce cri de louange à son endroit, ils sont en train de le reconnaître comme Messie. D'ailleurs, d'où cette phrase que l'on voit, ce petit détail à la fin de cette acclamation, ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Ils sont en train de l'acclamer roi. La foule acclame donc Jésus comme le roi d'Israël, un roi qui vient délivrer vraiment la nation de l'Empire romain. Il s'agit d'un roi qui va ressembler dans leur esprit, l'esprit de la foule, à ce David, David de l'Ancien Testament si connu, et à Simon Maccabée, un militaire, un roi militaire qui prendra l'épée pour délivrer le peuple juif de l'Empire romain. On sait bien que Jésus n'est pas venu pour ceci, pour cela. D'ailleurs, oui, Jésus est le roi, il est le roi d'Israël, le roi des rois, mais il n'est pas le genre de roi que la foule attendait à ce point-ci dans l'histoire. Il a un ministère à accomplir et évidemment, il a ce sacrifice ultime à offrir sur la croix pour vraiment apporter le salut dont on avait vraiment besoin, le salut de notre âme. C'est donc pas un sauveur national à ce point-ci. Ce que nous avons le plus besoin, c'était vraiment un salut de notre âme, de notre cœur et des péchés que nous avons et qui nous séparent de Dieu. Maintenant, c'est dans ce contexte, il y a vraiment un contexte fort d'un esprit militaire de délivrance et national du roi d'Israël, que Jésus va entrer dans une demeure. On parle de jours à peine parce que tantôt, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, on parlait de quelques jours, 5 jours avant Pâques. Et ici, on va parler justement que c'est pas encore Pâques. Donc, on parle de quelques jours à peine. Si tout se passe, alors il y a tout cet esprit, cette ferveur. En même temps, certaines paroles de Jésus qu'il aura prononcées après son entrée à Jérusalem nuit, ça change un peu à la réputation qu'il avait. Et Jésus fait ça par ses enseignements, parce qu'il veut, il est en train d'annoncer qu'il doit partir, qu'il doit même mourir. Et on n'accepte pas ça, on comprend pas ce qui se passe et son enseignement. Mais c'est dans ce contexte que Jésus va entrer dans une demeure et il va poser un geste que les disciples ne comprennent absolument pas, mais que nous avons besoin d'entendre et de comprendre chacun d'entre nous parce qu'il y a un message tellement important ici. Alors, tournons ensemble, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 13, et on va lire les premiers versets. On va lire plusieurs versets, dans le fond. Vous savez, c'est ce qui arrive quand on rentre dans une histoire, dans un texte narratif. Il faut voir l'ensemble un peu. Et on va donc tourner dans Jean 13, et soyez patients avec moi pendant que je vais faire cette lecture. Mais on veut comprendre tout ce qui se passe dans cette pièce. Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il commença à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Mais Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Eh bien, les routes de Palestine étaient sales et poussiéreuses. On avait pris l'habitude de laver évidemment les pieds lorsqu'on entrait dans une demeure. On avait un bassin, une serviette. Et surtout dans les journées pluvieuses, il y avait de la boue, ça pouvait monter jusqu'aux genoux. Il fallait absolument faire ça. Alors, surtout qu'on marchait avec des sandales à l'époque. Maintenant, le lavage de pieds, on réservait cette tâche aux esclaves, au plus bas niveau des esclaves. On se lavait pas les pieds les uns les autres, des gens du même rang social. On faisait pas ça. Et certainement pas un supérieur à un subalterne. Tu faisais pas ça. Ce que la convention, la culture voulait que ce soit le plus bas esclave. Et tu remettais ça. Même les Juifs ne donnaient même pas cette tâche aux esclaves juifs. On réservait cette tâche à des esclaves non juifs. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. C'était trop humiliant de faire cette tâche. Parfois, on pouvait, à la limite, demander à un élève, dans une académie rabbinique, on pouvait peut-être demander à un élève de le faire, de laver les pieds de son rabbin. Encore là, c'était spécial, c'était particulier, comme une estime, un genre d'estime profond, mais quand même, c'était pas l'habitude. On ne voyait pas l'inverse. Le rabbin n'aurait certainement pas lavé les pieds de ses élèves. Pour vous montrer juste un peu l'attitude que l'on manifestait à l'époque à l'endroit de cette coutume, un jour, il y avait un rabbin qui était allé à la synagogue et après la synagogue, il revenait à la maison. Et puis, sa mère, par affection, vous savez comment sont les mamans, par affection, elle s'est penchée pour laver les pieds de son fils. Et son fils, un rabbin, a refusé, absolument refusé. Il dit, pas question que tu me laves les pieds. C'est trop humiliant. Donc, vous voyez l'attitude ici qui circulait, qui se manifestait dans la société à l'époque de Jésus-Christ. Vous comprendrez donc l'attitude des disciples lorsque Jésus prend la serviette, se penche et commence à laver les pieds de ses disciples. Ses disciples sont sous le choc. Ils refusent d'ailleurs et Jésus doit expliquer. Maintenant, vous savez, Jean est en train de raconter le ministère de Jésus. Il est en train de décrire le ministère de Jésus tel qu'il s'est déroulé. Mais Jean, de temps en temps, va ouvrir une parenthèse, va faire un commentaire pour nous aider à comprendre le message. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Jean va faire un commentaire, va ajouter un commentaire ici pour encadrer en quelque sorte cet événement-là, pour nous aider à comprendre ce qui est réellement en train de se passer ici. Verset 1 va dire ceci, « Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Dans certaines traductions, on va voir a mis un comble à son amour. Parce que le texte original peut donner le sens que c'est comme un apogée encore plus fort, mais on croit plutôt que c'est jusqu'au bout, dans ce sens-là. C'est difficile à traduire, mais on a le droit de traduire dans deux sens, mais on pense que c'est ça. En d'autres mots, il les a déjà aimés, il a déjà manifesté son amour pour eux, mais en même temps, il va les aimer jusqu'au bout. Et dans le contexte que Jean vient de donner, ce petit commentaire qu'il vient d'ajouter, qu'il vient de nous expliquer, il dit, Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre monde, retrouver son Père. Lui qui avait déjà aimé les siens, déjà démontré son amour au cours de son ministère, de son vécu, de son vivant, va continuer même sachant qu'il se dirige vers la mort. C'est un peu le point que Jean essaie de nous faire comprendre. En d'autres mots, ce que Jean est en train de faire, est en train de nous donner assez d'informations, quelques petits détails pour nous aider à comprendre à quel point cet événement que Jésus est en train de faire ici, ce geste que Jésus est en train de poser à l'endroit de ses disciples, ce geste, ce qu'il est en train de nous dire, est en train de mettre en évidence encore plus l'amour de Jésus-Christ. C'est le but de l'événement ici, c'est le détail que Jean veut faire sortir. Il est en train de dire, voyez comment Jésus avait déjà aimé les siens, mais maintenant regardez à quel point il va les aimer, puis il continue à les aimer sachant qu'il va mourir. Et il continue à les aimer. Et c'est le point que Jean veut nous aider à comprendre. En d'autres mots, cette scène que nous voyons, cette histoire que nous avons de la vie de Jésus, du ministère de Jésus-Christ, ici, le lavement des pieds, a pour objet de faire ressortir d'autres évidences que Jésus t'aime. Il faut que tu le prennes pour toi. Il y a des évidences dans ce passage. D'ailleurs, on va en soulever 5. Qui met en relief à quel point Jésus t'aime. Premièrement, Jésus montre son amour dans sa vie et aussi dans sa mort. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Alors, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde. Alors, Jésus a montré son amour au cours de sa vie, son ministère. Sa vie, en d'autres mots, nous montre qu'il nous aime. Son ministère, ce qu'il a fait, ça dévoile son caractère, qui il est. Ça montre à quel point il nous aime. Jean souligne comment Jésus avait déjà démontré son amour envers ses disciples tout au long de son ministère. Jésus a pris soin d'eux, les a nourris, il a même ressuscité Lazare. Il les a aimés, les a enseignés, il leur a donné la parole de Dieu. Il a passé des heures et des heures à les aider à comprendre qui était Dieu, à révéler Dieu, à donner sa révélation. Il a été patient, miséricordieux, il était gracieux à leur égard. Sa vie nous montre. Tu regardes la vie de Jésus. C'est pour ça que lorsqu'une nouvelle personne arrive à l'Église et ne connaît pas tout à fait l'Évangile, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on lui dit, commence donc à lire l'Évangile de Jean ou Matthieu ou Marc, parce que tu veux le mettre face à face avec le Jésus, avec Jésus. Et ce qu'on voit, c'est plusieurs tombent en amour avec Jésus-Christ, juste à voir sa vie et voir à quel point il nous aime. Sa vie nous a montré à quel point il nous aime. Il s'est gardé pour nous. Jésus a aimé ses disciples au cours de son ministère. Toute sa vie est un témoignage d'amour. Mais non seulement ça, dans sa mort aussi. Il nous a aimés dans les moments faciles, mais il nous a aussi aimés dans les moments difficiles. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Le sachant, l'heure dont il est question, évidemment, c'est sa mort. Jésus nous a également aimés dans la douleur en versant son sang et dans la mort. Que le Seigneur nous donne la capacité, et ça c'est vraiment une intervention du Saint-Esprit qu'on a besoin. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prié dans Éphésiens, que Dieu nous aide par son esprit de vraiment comprendre. On a besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit de nous aider à comprendre la largeur, la longueur. Vous vous souvenez de ce passage-là? La hauteur, la profondeur, la longueur, l'étendue de l'amour de Jésus-Christ. On a besoin d'une intervention divine pour nous aider à comprendre l'ampleur de son amour pour nous. Parce qu'on ne le réalise pas et ça fait toute la différence dans notre vie. Elle est là, la clé. On ne le réalise pas. Parfois, on prend ça pour acquis. On en parle comme ça, mais Et c'est pour ça que Paul dit, on a besoin de prier, frères et sœurs. On a vraiment besoin de prier que l'Esprit nous montre l'ampleur de son amour pour nous. Et ça, c'est une intervention de Dieu qu'on a besoin. D'ailleurs, le passage dit que Dieu nous donne la puissance d'être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus qui surpasse toute connaissance en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. À mesure, vois-tu, que tu regardes Jésus-Christ, tu regardes son ministère, sa vie, ses enseignements, tu regardes la croix, et à mesure que le Saint-Esprit te révèle son amour, tu es en train de te remplir de toute la plénitude de Dieu. Réalises-tu comment c'est important? C'est majeur. Alors, la vie et la mort de Jésus nous ont montré son amour pour nous. Une autre évidence, c'est son acceptation. Qui nous accepte. Nous voyons ce petit détail, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ayant aimé ceux qui lui appartenaient, ayant aimé les siens. D'ailleurs, un peu plus loin, dans le même passage, verset 18, « Je connais ceux que j'ai choisis, » dit Jésus. Alors, remarquez qui il a aimé. Il a aimé les siens. Il les a aimés jusqu'à la fin. Quelques passages intéressants à cet égard. Dans Jean, par exemple. Dans Jean 10, dit ceci. Celui qui entre par la porte. Et Jésus prend ici une métaphore de bon berger. Il est comme un bon berger. Puis il dit dans Jean 10, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus, qui est le bon berger ici dans Jean 10, compare ses disciples, nous compare à des brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Il les appelle et les brebis répondent et elles le suivent. Belle description d'un enfant de Dieu. Il dit au verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Elles sont où? » Amen. Ça parle de vous autres. Jésus parlait de vous autres. Celle-là aussi, ça parle de toi, ça. Ça parle de Nicole, Françoise, Michel, Gilles. Alex, Flaubert, oui, Jésus a parlé de vous autres. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Amen. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Verset 27, Jésus continue. Il dit, « Mes brebis, écoute ma voix. » Avez-vous remarqué? « Mes brebis. » « Mes brebis, là. » « Écoute ma voix. » Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Réalises-tu à quel point Jésus t'aime? Ah, il y a quand on met tout ça ensemble. Jean 15, ceci, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et dans Jean 17, nous disons, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Écoutez bien ceci. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Alors, regardez bien, mettez ça ensemble. Là. Mettez tous ces termes-là ensemble. Alors, regardez bien ce qu'il est en train de dire. Là. Les siens. Écoutez ceci. Là. Les siens. D'accord? Les siens, ses brebis, ses amis, ses disciples, ses enfants. Ça dit quoi, là? Si tu es en Jésus-Christ, tu lui appartiens, tu es à lui. Tu fais partie de ses amis. Tu fais partie des siens. Tu fais partie de ses disciples, ses enfants. C'est ça les croyants. Une belle description des croyants. C'est tellement précieux, c'est puissant, et ça, ça a le pouvoir de changer notre conception, de chavirer même notre vie, de savoir ça. L'amour de Jésus pour les siens, pour ses brebis, pour ses amis, pour ses enfants, pour ses croyants, se manifeste encore plus fortement que l'amour qu'il a pour le monde. Oui, Dieu aime le monde, ça le dit dans Jean 3,16. On faisait toute partie du monde. Jean 3,16, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu aime le monde, mais Dieu t'aime. Dieu aime les siens d'une façon particulière et différente. Alors, c'est pour ça que le verset 1 dit, « Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Mais ici, dans Jean 13, le Seigneur tient à ce qu'on sache. Il veut que l'on sache. Nous qui sommes les siens, ses brebis, ses amis, qu'on a une relation particulière avec lui. Ce n'est pas par accident que lorsqu'on tombe dans l'Évangile, ou plutôt dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, Paul va comparer la relation de Jésus et son Église à un mariage. Ce n'est pas pour rien. Il va comparer l'Église comme son épouse. Et c'est une belle image, une belle métaphore. C'est qu'il y a une idylle, une histoire d'amour entre Jésus et les siens qui ne se compare pas à l'amour général qu'il peut avoir pour le monde. Moi, je peux avoir un amour pour les gens, je peux aimer mes voisins. J'aime beaucoup mes voisins. Je les trouve gentils, ils sont super, j'aime beaucoup. Mais c'est pas l'amour que je vais avoir pour ma femme, on s'entend? C'est pas la même chose. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on va marier un couple, par exemple, on va dire au couple, lorsqu'on marie un couple, on va dire ceci, on va dire, là, vous vous souvenez, vous êtes probablement allé déjà dans un mariage, et dans un mariage, il y a trois choses essentielles. Il va y avoir beaucoup de choses, il peut y avoir un message, il peut y avoir une lecture d'un passage des Écritures, il y a beaucoup de choses. Il y a trois choses essentielles, et ça c'est vraiment essentiel, et auquel on tient, il va y avoir des questions. Veux-tu prendre cette femme en mariage, l'aimer, la chérir dans les bons et mauvais jours, etc. Est-ce que tu veux? Et t'espères avoir la bonne réponse. Hein? L'autre, surtout. La personne intéressante avant, surtout, elle aimerait bien ça entendre une bonne réponse. Et tu leur demandes cette question-là. Après ça, tu vas dire, là, tu fais tes vœux. Tu dis, je m'engage à, je vais te prendre comme épouse, etc. Et là, c'est vraiment beau. Là, les gens vont dire, écoute, je te prends comme épouse ou comme époux. Tu as t'aimé dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, et jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsqu'on marie un couple, voici ce qu'on leur dit. On dit, écoute, sais-tu, quand je pose des questions en avant, quand je vais te poser la question, je veux que le oui que tu vas me le dire à moi. Tu me regardes dans le visage, moi. Pas ta future femme. Pourquoi? Parce que tu fais deux alliances lorsque tu te maries. Deux alliances. Une alliance verticale et une alliance horizontale. Tu fais une alliance avec Dieu, que je représente ce moment-là. Alors, je veux que tu ce moment-là que tu fais ton alliance, je veux que tu me regardes dans les yeux, parce que tu es en train de répondre par ricochet, tu es en train de donner cette promesse-là à Dieu. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. La deuxième alliance que tu fais, tu la fais avec ton partenaire. Et là, à ce moment-là, quand tu prononces tes vœux, tu ne me regardes plus. Oublie-moi. Tu regardes ton partenaire et tu fais une alliance avec elle. Il y a quelque chose de particulier dans cette relation-là amoureuse, dans cette idylle-là, dans cette alliance que tu prends avec ton conjoint, que tu ne ferais pas avec ton voisin. N'est-ce pas? Et c'est ce genre de relation-là que nous avons avec Jésus-Christ. C'est pas le même genre d'engagement et d'amour et d'idylle que l'on va avoir. Alors, ce qui fait ressortir ici, c'est que cet amour, c'est particulier, c'est permanent, c'est unique, c'est privilégié. Pensez à ces paroles qui s'adressent à vous. Verset 1. Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde. Ça part de toi. Il les aima jusqu'à l'extrême. C'est de cette façon-là qu'il vous aime, jusqu'à l'extrême. Alors, Jésus a montré son amour pendant sa vie, même dans sa mort. en nous acceptant aussi. Et non seulement ça, en prenant un rôle de serviteur, très humble. Il a montré son amour là, que l'on voit ici. On n'oublie pas le contexte, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à commencer avec ce contexte-là. Jésus a été ovationné il y a à peine quelques jours comme le roi d'Israël. Et en plus, ici, dans le passage que nous sommes en train de lire, le verset 3, il est dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Alors voici ce roi d'Israël, le roi des rois, celui qui détient toute l'autorité. L'autorité lui a été remise, il a toute l'autorité, il le sait que le Père lui a remis tout entre les mains. Lui donc qui détient l'autorité, il le sait, il est le roi des rois même, puisque le Père l'a tout remis entre ses mains, lui pose un geste tout à fait inhabituel. Verset 4, il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds des disciples, les essuya avec le linge qu'il avait autour de la taille. Imaginez, ça ne se faisait pas. Jamais un rabbin, même un enseignant, jamais a fait ça à un subalterne. Jamais. Jamais une personne supérieure, d'un rang supérieur, aurait fait ça. Voyez-vous comment le contexte fait ressortir la beauté de l'amour de Jésus-Christ? Alors que Jésus détient l'autorité, prend le rôle de celui qui n'en a pas, un esclave. Celui qui donne la liberté, laisse de côté sa liberté et prend ce rôle d'esclave. Jésus s'abaisse en prenant le rôle le plus humble. Le roi des rois prend une serviette comme sceptre royal. Quel amour, hein? Quelle humilité. Les disciples sont étendus pour manger, c'est comme ça qu'on mangeait, c'était la coutume. Il y avait une raison pour ça, culturelle. Dans l'Antiquité, les esclaves n'avaient pas le droit de s'asseoir. Pendant que les invités mangeaient, ils restaient toujours debout, ils attendaient l'ordre des maîtres. Ils restaient debout, occupés, à rendre service. Et la coutume remonte dans le temps de Babylone. Parce que les esclaves restaient debout. Donc, ce qu'on a fait, les Juifs, ce qu'ils ont fait, ils ont tenu, lorsqu'ils sont devenus libres, ils ont tenu donc à prendre cette position-là, encore aujourd'hui, même en 2014, pour rappeler la liberté maintenant qu'ils ont comme Juifs, un pays libre maintenant. Donc, déjà dans le temps de Jésus, on s'étendait pour manger. Et encore aujourd'hui, lorsque vous avez la Pâque juive, ce qu'on va faire, c'est que la famille va s'installer autour de la table. Est-ce qu'on le repas qu'on appelle le seder, ça veut dire littéralement l'ordre du repas. Et ce que les Juifs vont faire, vont se pencher vers le côté gauche, vont mettre leur coude sur, ici, sur la chaise. Il y a une raison pour ça. On est en train de dire à tout le monde, hey, on est libre. C'est une coutume qui existait même dans le temps de Jésus, excepté qu'à l'entente de Jésus, au lieu d'avoir des chaises comme on a aujourd'hui, on s'étendait sur une table qui était basse. Alors, imaginez la scène. Alors que Jésus, lui, se lève. Et Jésus reste debout et commence à servir. On peut comprendre Pierre. Pierre est mêlé. Pierre ne comprend pas. Il va même refuser. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la tête de ces gens-là qui ont été élevés dans cette coutume, qui ont été élevés là-dedans. Et Pierre ne comprend pas, et les disciples non plus, c'est pas normal, reste étendu, c'est à nous de te servir. Mais non, Jésus se lève, prend la serviette et se penche et commence, pendant que les disciples sont étendus ici autour de la table, va commencer à laver les pieds, à servir comme un esclave le ferait. C'est tout à fait inhabituel. Jésus fait le contraire. Il prend la serviette et prend le rôle du serviteur humble et sert ses disciples en lavant leurs pieds. Dans Marc 10, 45, on a ce passage qui nous rappelle que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors Jésus a montré son amour pendant sa vie, même dans sa mort. Il a montré son amour en nous acceptant, en prenant le rôle d'un serviteur, même en lavant les pieds de son ennemi. On donne un détail ici, verset 2. Jean ajoute un détail important. Parmi les disciples dont Jésus va laver les pieds se trouve Judas, qui a décidé de trahir Jésus, même à ce point-ci, là, c'est Verset 2 dit, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariot, fils de Simon, l'intention de trahir. Imaginez. Imaginez Judas qui est là assis et Jésus se penche pour laver ses pieds. Dieu se met à genoux devant Judas. Réalisez-vous? Voyez-vous l'humilité de Jésus? Judas était l'ami, l'ennemi de Jésus. Mais il faut être honnête. Nous étions tous des Judas. Parce que c'est ce que ça dit, n'est-ce pas, dans Romains 5? Dans Romains 5, 8 et 10, nous lisons, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, on était tous des Judas. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Parce qu'il faut réaliser que nous étions les ennemis du Seigneur, nous étions séparés d'avec Dieu. Il y avait un mur qui nous séparait. Je pense que c'est Martin Luther qui a dit, « Nous sommes plus perdus et plus faibles qu'on ne l'a imaginé, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus acceptés, plus aimés qu'on ne l'aurait jamais espéré. » Jésus prend une serviette et lave les pieds de son ennemi. Alors Jésus montre son amour. Il a montré son amour dans sa vie, dans son ministère, même dans sa mort. Et il nous a acceptés, il a pris un rôle de serviteur. Il avait les pieds même de son ennemi. Et on était tous là. Puis aussi, il montre son amour en nous purifiant. Verset 8 dit, Pierre lui dit. Pierre réagit, on comprend l'attitude de Pierre. On peut comprendre. Il dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Pierre refuse. Puis d'ailleurs, tous les disciples pensaient probablement la même chose. Mais c'est Pierre qui l'a dit. Il dit, jamais tu vas me laver les pieds. C'est pas à toi de faire ça. Mais Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors là, Simon-Pierre lui dit, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, lave-moi au complet, lave-moi, hey, je veux prendre part. Alors, Pierre, qui est scandalisé que Jésus lui lave, Jésus lui dit ceci, si tu n'es pas lavé, je ne pourrai pas, si je ne te lave pas, tu ne pourras pas prendre part. Le mot prendre part ici est important. C'est le même mot qu'on employait pour le mot héritage, c'est le mot qu'on employait pour l'Ancien Testament lorsque les tribus, on divisait les portions de la terre et on prend part. C'est l'idée de prendre part au royaume de Dieu. Plus spécifiquement ici, il est question de la purification des péchés que le sacrifice de Jésus-Christ va permettre lorsqu'il va souffrir sur la croix. Maintenant, l'avertissement que Jésus fait à Pierre est très important parce que c'est encore vrai aujourd'hui. Il dit, si je te lave pas, tu ne prendras pas part avec moi. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Si Jésus ne nous lave pas, on ne peut pas prendre part au royaume de Dieu. Est-ce que Jésus t'a lavé? Est-ce que Jésus t'a lavé de tous tes péchés? Parce que si Jésus ne nous lave pas de nos péchés, on ne pourra pas prendre part avec lui. On ne pourra pas prendre part au salut, le salut de Jésus, le bain de régénération dont Jésus parle ici. C'est la vie éternelle, la nouvelle naissance qu'on reçoit en plaçant notre foi en Christ. Lorsque tu places ta foi en Jésus, lorsque tu crois que Jésus est allé à la croix justement pour prendre ta place, prendre sur lui les péchés et les conséquences, le jugement que l'on méritait tous. Lorsque tu places ta foi, lorsque tu crois que Jésus est un substitut pour toi, à ce moment-là, tu es purifié. Lorsque tu places ta foi en Christ pour avoir ton salut, avoir le salut de tes péchés, le pardon de tes fautes, eh bien là, tu vas être lavé de tous tes péchés. Alors, le bain dont il parle et qui nous purifie, c'est le bain de la nouvelle naissance, dans le fond. C'est une image que Paul parle, que Jésus parle, mais ça parle de la nouvelle naissance qui nous régénère, qui nous donne un nouveau cœur, qui nous pardonne de tous nos péchés, qui nous condamnait. Galates 2,16 dit ceci, « Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Alors le bain, c'est comme une métaphore ici, en quelque sorte. Il symbolise notre justification. Et le lavage des pieds symbolise la sanctification, en quelque sorte. Et nous avons besoin de retourner au Seigneur, confesser nos fautes, comme le dit 1 Jean 1,8, ce passage que nous lisons, toujours dans le même auteur, chez le même auteur. Nous lisons dans 1 Jean 1,8, 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, on a besoin chaque jour, de nous laver ici. Ça part de cette image-là. Donc, ça part de justification et ça part de sanctification. Alors, la justification, ça arrive juste une fois, lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, une seule fois. Alors, voilà à quel prix, voilà à quel point, plutôt, Jésus nous a aimés. Il nous a aimés dans sa vie, dans son ministère. Sa vie nous montre à quel point il nous aime. Sa mort nous montre à quel point il nous aime. Il nous a acceptés. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a aimé ses ennemis. Et il nous a purifiés pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà à quel point Jésus nous aime. Maintenant, pourquoi? Pourquoi Jésus s'est tant humilié ce jour-là en prenant le rôle d'un serviteur, d'un esclave même? Eh bien, lisons verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous faire? Vous m'appelez, vous autres, vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien. C'est ce que je suis. Jésus reconnaît, dit, « Moi, je suis le Seigneur. Vous faites bien de me connaître, Seigneur. Si donc, moi, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Alors, voyez ce qu'on disait tantôt, les uns les autres, on faisait pas ça. On faisait pas ça, là. Les gens au même rang. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple ici. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Dans le fond, le message, il dit, moi, je vous ai donné un exemple. Le mot exemple ici, c'était un terme bien connu. On le voyait même chez les Grecs et chez les Romains. Ça voulait simplement dire, c'était les vertus. Mais chez les Grecs et les Romains, évidemment, les vertus, c'était pas la même chose. C'était les prouesses militaires, le courage, la force, la puissance. Mais chez Jésus, c'est l'humilité. Une des vertus, une des qualités de la vie chrétienne, c'est l'humilité, c'est le service. Et ce que le message est en train de nous dire ici, c'est pas compliqué, tellement simple. Il dit, prends ta serviette. Prends la serviette. Sers. Commence à servir les autres. Serre les autres. Il n'y a pas personne trop bas, trop haut. Mets-toi au service des autres. Serre. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus fait une promesse. Il dit, c'est comme ça que tu vas être heureux. Maintenant, les gens libres ne lavaient pas les pieds. On remettait cette tâche-là aux esclaves, aux serviteurs. Mais voilà celui qui donne la liberté, prendre le rôle d'un serviteur, d'un esclave. En d'autres mots, l'Évangile nous libère pour servir. Nous avons été libérés de sorte qu'aujourd'hui, on peut se servir, on peut servir les uns et les autres au sein de l'Assemblée et ailleurs. Vois-tu? Prends la serviette. Tu ne sais pas quoi faire, va au kiosque. Il y a un tas de ministères où on a besoin d'aide. On a besoin d'aide au niveau des placeurs. On a besoin de placeurs et on n'est pas pire. On met ça plusieurs semaines entre. Ça n'a pas pris à chaque semaine. Il n'y a pas de raison de pas servir. C'est juste le manque d'information peut-être que tu as, mais tu as juste à te rendre au kiosque. Si tu es là, assis, tu te demandes comment je peux prendre la serviette. Rends-toi au kiosque. Il y a beaucoup de serviettes au kiosque. Ah, il y a des serviettes, c'est plein de serviettes qu'on peut te remettre. D'accord? En d'autres mots, chaque personne ici, 100% des gens ici devraient avoir un ministère, devraient avoir une serviette. D'accord? Parce que tu sais pourquoi? Tu vas être heureux. C'est ça que Jésus dit. Il dit, tu mets ça en pratique, pas juste tu dis, hey, amen, ah, moi je suis convaincu. Hey, oui, ah, je suis d'accord avec ça. Non, Jésus est en train de dire, écoute, tu veux avoir l'autre bénédiction? C'est en le faisant, c'est en prenant la serviette. Et ce que quelqu'un est en train de dire ce matin, il faut que tu ailles au kiosque chercher une serviette. Tu veux être heureux? Va te chercher une serviette. D'accord? Tout le monde? Amen! Alors, prions. C'est bon. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier. Quel exemple, quelle évidence de ton amour. On veut te louer, Seigneur, parce que tout de ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort et même l'ascension, la résurrection, partout on voit une grande bannière qui dit « Je t'aime ». On veut te louer, Seigneur. On veut te glorifier. Quelle bonté. C'est renversant, Seigneur. Et nous voulons être heureux. Et tu nous dis « Prenez votre serviette ». Et bien, Seigneur, ce matin, on veut mettre en pratique ces choses que tu nous donnes ce matin, cet enseignement. On veut aller chercher une serviette, on veut servir. Il y a des gens qui servent déjà et on te bénit, Seigneur, on te remercie. Mais pour quelques-uns d'entre nous, Seigneur, peut-être qu'on a un pas de foi à faire, peut-être nerveux, peut-être timide, mais on te prie que tu puisses nous aider ce matin parce qu'on veut cette promesse. On veut que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Ce bonheur que tu promets à te servir. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.